parler des aspects de la vie religieuse du XIXe siècle à Marseille.
Jean, c'est à toi.
Merci. Mon cher directeur, mes chers confrères, mesdames et messieurs, je vois avec plaisir que la religion fait encore recette. Je vais donc traiter des aspects de la vie religieuse à Marseille au XIXe siècle. Il est certain que Marseille colore toutes ses activités et que la vie religieuse à Marseille a une couleur, des aspects plus marqués qu'ailleurs, n'est-ce pas ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Sur le plan religieux, Marseille participe à la même situation juridique que le reste de la France, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, elle est soumise au concordat de 1801, c'est-à-dire l'accord conclu entre Bonaparte, premier consul, et Pie VII, qui voulait rétablir la vie religieuse en France, et ce concordat reprend l'essentiel du concordat de 1516, compris, signé entre François Ier et le pape Léon X Médicis. Sinon que le catholicisme n'est plus religion de l'État, mais de la grande majorité des Français. Et en outre, que les biens confisqués et vendus, comme biens nationaux, les biens de l'Église, après, ne seront pas rendus à l'Église, en revanche, et en compensation, le clergé touchera un salaire de l'État, ce qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, le système, c'était celui des bénéfices, quoi. C'est-à-dire que chaque poste était une espèce de fondation qui assurait à son titulaire un revenu annuel. Donc désormais, dans ce système concordataire, le clergé est fonctionnaire. Et c'est vrai pour le catholicisme, mais c'est vrai aussi pour les autres confessions. Finalement, sur le plan du bénéfice, de l'autonomie religieuse, Marseille ne reçoit pas un traitement très favorable, puisque son diocèse, qui avait été supprimé par la Constitution civile, la Constitution civile avait ramener le nombre des diocèses de 120-130 à un peu plus d'une soixantaine. Son diocèse n'est pas rétabli dans l'immédiat, n'est-ce pas ? Donc, ses biens ne lui sont pas rendus, le diocèse n'est pas rétabli, donc pour les Marseillais, c'était une déception, deux déceptions pour les Marseillais qui, éprouvés par la tourmente révolutionnaire, étaient bien revenus de l'enthousiasme des premières années de la Révolution et qui avaient retrouvé leur attachement traditionnel pour la monarchie et le catholicisme. Alors, dans un premier moment, nous allons examiner les années de l'Empire jusqu'en 1814. L'Église marseillaise panse ses plaies. Elle a vu un certain nombre de martyrs, subi un certain nombre de destructions, d'exils. L'Église marseillaise panse ses plaies sous l'étroite surveillance de la police impériale. Si par le concordat, Bonaparte a rétabli la structure de la vie religieuse, l'accompagnant d'accord avec les réformés et avec le culte israélite, l'Église ne retrouve pas une liberté totale, loin de là. Pèlerinage et procession demeurent interdits. Et la police de Fouché surveille les sermons, n'est-ce pas? Le dimanche, il y a toujours un ou deux mouchards dans les églises pour écouter le prêche, pour savoir si, par hasard, il ne serait pas hostile au gouvernement. Cette reprise de la vie religieuse se fait dans des conditions donc difficiles. On manque cruellement de prêtres. Il y a eu des déportés, il y a eu des exécutions, il y a eu des exils, et les trous sont comblés par des abdicataires réconciliés. Alors, formule qui veut dire des prêtres qui, pendant la Révolution, avaient renoncé à leur sacerdoce pour se marier souvent, ou pas se marier, mais enfin. Ils étaient abdicataires. Et quand, évidemment, la situation a changé, beaucoup de ces abdicataires, surtout ceux qui ne s'étaient pas mariés, se réconcilièrent avec l'Église et retrouvèrent un poste. Mais c'est un clergé de deuxième zone, vieilli, fatigué. Le siège de Marseille n'est pas rétabli. Le concordat n'a pas rétabli le siège de Marseille. Donc, Marseille dépend d'Aix. À ce moment-là, l'archevêque d'Aix est un homme remarquable, il s'appelle le Champion de Cissé. C'est un homme habile, influent, qui essaie de tirer le meilleur parti d'une situation qui n'est pas très favorable. Alors il obtient quelques satisfactions. Par exemple, il obtient que l'ancienne abbaye de Saint-Victor soit affectée au culte paroissial, donc elle devienne une paroisse, et que l'on crée des aumôniers dans les prisons et dans les hôpitaux. Champion de Cissé, donc, commence à rétablir un certain nombre de cadres. Il crée un petit séminaire, qui comptera bientôt 200 élèves. Il ne faut pas s'illusionner sur la vocation de ces 200 élèves, hein. Je veux dire que seul un petit nombre se destine à la prêtrise, d'autres sont des élèves de familles catholiques qui se méfient de l'enseignement des lycées impériaux qui sont, au dire du clergé, des hauts lieux de l'irreligion. C'est vrai que les lycées impériaux n'ont pas été un terreau très favorable à la pratique religieuse. Et donc, il recrée un séminaire. En 1803, il accueille 10 religieuses capucines, il organise des missions intérieures. En février 1810, le préfet Thibaudot écrit que, par exemple, à Notre-Dame-du-Mont, paroisse déjà importante, il y a une retraite et qu'il y a eu 1200 personnes qui ont fréquenté la retraite avec un sermon tous les jours. Tout ça pendant la durée du carnaval. Alors, je vous signale qu'à Marseille, le carnaval ne durait plus qu'ailleurs, puisqu'il durait 2 mois. De l'épiphanie au début du carême. Champion de Cissé encourage l'œuvre du père allemand, qui existe encore, bien sûr, fondé à la fin de la Révolution et qui développe au début du XIXe siècle l'encadrement de jeunes gens, l'encadrement d'enfants, par des jeunes gens de la bourgeoisie, religieusement formés, et qui font ce qu'on va appeler après le patronage. Alors, Champion de Cissé s'intéresse beaucoup à cette formation des jeunes, et en 1804, il vient lui-même donner la confirmation à l'œuvre allemand qui est à ce moment-là installé rue du Laurier. Elle compte en janvier 1804 une centaine de membres. Et quelques années après, elle a doublé. Donc, cette œuvre de jeunesse attire du monde, mais est étroitement surveillée par la police. Vous savez, si vous devez vous souvenir d'un caractère du régime impérial, c'est un régime policier, du début jusqu'à la fin. Et le ministre de la police a été Fouché, puis après Bigot de Préameneu, et le ministre le plus important du gouvernement. Jamais la pression policière ne s'est relâchée sur le pays pendant tout l'Empire. Alors, finalement, la police s'intéresse à cette activité des patronages marseillais, n'est-ce pas? Et d'autant que, vous savez que Napoléon a été excommunié par Pie VII, bien entendu, il a été interdit de diffuser la bulle d'excommunication en France, mais les jeunes gens de l'œuvre allemande font circuler la bulle d'excommunication. Et un beau jour, un commissaire se présente à l'œuvre et demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et le père allemand répond « Ici, nous jouons et nous prions. » Dans l'ordre, « Nous jouons et nous prions. » Mais l'établissement est fermé et M. Allemand est expulsé de ses locaux. Après un temps d'errance, d'ailleurs, il sera nommé vicaire à Saint-Laurent. Même suspicion pour les prêtres du Sacré-Cœur, c'est-à-dire les prêtres du Bon Pasteur, ils existent toujours, ils tiennent la paroisse du Bon Pasteur, n'est-ce pas, et d'autres. Ils sont surveillés parce qu'on se méfie de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la jeunesse. D'une façon générale, les catholiques marseillais sont hostiles au régime. Les Marseillais n'ont jamais été bonapartistes. Ni sous le premier, ni sous le second. Sous le premier, parce que les bons éléments étaient catholiques et monarchistes. Les autres comptaient peu, n'est-ce pas? Et par conséquent, ils ont été hostiles au régime impérial. Ils sont animés, le clergé, par l'association de prêtres qu'on appelle la Congrégation, et puis les laïcs d'un certain niveau, par une société secrète, les chevaliers de la foi. Donc, rien de très favorable à l'empereur dans le milieu. Sous la Restauration, la situation change du tout au tout, à savoir que le pouvoir favorise le catholicisme. Et par conséquent, les catholiques marseillais, de nouveau, comme ils étaient royalistes, vivent leur foi en accord avec leurs convictions politiques. Alors, de la mort de Champion de Cissé, qui a été nommé au début, n'est-ce pas, de l'Empire, en 1810, et la nomination d'un successeur, l'intérim est assuré par Mgr Miollis, l'évêque de Digne. Ainsi, on le voit le 16 octobre 1818 donner la confirmation à Notre-Dame-du-Mont. 400 confirmés d'un coup. Il faut dire qu'il y avait un retard considérable. On avait pu donner la confirmation depuis des années, n'est-ce pas? Il bénit la foule dans la rue, donc une manifestation publique. Et puis il continue à la paroisse Saint-Féréol, à Saint-Théodore, et ensuite aux Égalades et à Mazargues. Donc, en l'absence d'un évêque à Marseille, il n'y en a toujours pas, l'évêque d'Aix, et là, en l'occurrence, l'évêque de Digne, essaie de combler ce déficit, n'est-ce pas? Alors, la vie religieuse est animée, soit par les missionnaires de France, de l'abbé Janson, de Janson, lui, prêche en français. Donc c'est pour les milieux cultivés. Mais les missionnaires de Provence, c'est les futurs oblats d'Eugène de Mazenod, prêchent en provençal pour le peuple. Mazenod a toujours aimé prêcher en provençal, n'est-ce pas, hein? Il a subi l'influence de son grand-père, Johannis, qui lui a parlé provençal pendant toute son enfance. Donc par conséquent, Mazenod s'exprimait aussi bien en français qu'en provençal. Ce qui, à cette époque-là, était précieux, ce qui aujourd'hui serait inutile, puisque les Marseillais ne parlent plus provençal depuis longtemps. Le diocèse manque de prêtres. Il y en a 171 pour tout le diocèse de Marseille, à cette époque, début du XIXe siècle. C'est la moitié de ce qu'il y en avait sous l'Ancien Régime. Mais les grandes manifestations religieuses ont repris même avant la fin de l'Empire. Notamment dans les souvenirs de Julie Pélisson, que connaît bien notre ami, puisqu'il les a édités avec sa femme et avec Georges Reynaud. Les grandes fêtes religieuses sont notées, racontées, notamment il y a une très belle description de l'octave de la fête Dieu en 1811. Alors, par exemple, la statue de la Sainte Vierge qui n'est pas la statue originale de Notre-Dame de la Garde, parce que comme elle était en argent massif, elle a été fondue pour faire de la monnaie en 1804. Elle est en bois et en bois doré et argenté. Cette Sainte Vierge est portée depuis la chapelle, sa chapelle, Notre-Dame de la Garde, par les pénitents blancs et déposée sur l'arcade de l'hôtel de ville sur un reposoir. Donc, vous voyez que le catholicisme est redevenu public avec l'appui des autorités, n'est-ce pas? Le jour de la fête Dieu, procession générale dans la ville. Et ensuite, il y a procession dans chaque paroisse. Par exemple, un beau reposoir a été dressé dans la rue Beauvau, sur la réclamation des habitants. Le beau monde de la ville est venu voir le reposoir, car la rue Beauvau, qui ordinairement n'est pas en odeur de sainteté, parce que les belles qui la fréquentent, en général, ne sont pas des saintes. Donc, chaque paroisse fait sa procession pour la fête Dieu, successivement dans le temps, n'est-ce pas? Et c'est l'église des réformés qui aura la plus belle procession de Marseille, avec des jeunes paroissiens vêtus de blanc, porteurs des cierges. Le 21 juin, la fête du Sacré-Cœur est instituée par Belzunce en souvenir de la mort honorable de l'évêque pieds nus. Ensuite, les prêtres de la Palue, ceux des Chartreux, clôturent les processions et toute la ville aura fait sa procession de la fête 2 à tour de rôle. Donc, 1811, même chose en 1812. En 1813, la procession des réformés est rivalisée par une magnifique procession venue de Saint-Laurent, l'église du port, n'est-ce pas? Procession qui passe devant les bateaux rangés le long du quai. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, cette époque de retour de la vie religieuse multiplie les manifestations publiques. En 1814, fête pour le retour du roi, qui est autant politique que religieuse. Le côté festif des catholiques marseillais de l'Ancien Régime s'est rétabli spontanément. Mais sous les épiscopats, dit Massenon, d'autres aspects religieux se manifestent. D'abord, retour des congrégations religieuses, retour des jésuites et des dominicains, développement des oblats de Marie Immaculée, créé par Massenon, devenu un ordre missionnaire international. En 1843, le père Barthès de la Société de Jésus crée les Sœurs de Notre-Dame de la Compassion pour desservir une œuvre destinée à s'occuper des servantes, des filles de la campagne qui venaient se louer, qui étaient nombreuses et qui très souvent étaient entraînées à la débauche par des maquereaux qui les pistaient dès la sortie du train, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, les filles de la Compassion sont allées aux descentes du train pour prendre en main ces filles qui venaient travailler, n'est-ce pas ? Les jésuites ont un très grand rayonnement à Marseille. Ils ont créé un cercle pour les messieurs et qui a un large recrutement, et les sermons des pères jésuites sont très connus, très courus. En revanche, le père Timon David, lui, s'occupe de la jeunesse ouvrière et il va avoir un grand écho. Il appartient à une bonne famille marseillaise et sa mère, Mélanie Ducollet, appartenait à la noblesse comtadine. Timon David appartient à une famille qui est très, très pratiquante. Élevé par sa mère dans une piété douce et chaleureuse, il supporte très mal le petit séminaire, probablement il y a de quoi. Et ensuite, il va au collège des jésuites à Fribourg, où il est très heureux, en 1842, au séminaire de Saint-Sulpice. Il est ordonné prêtre et il va commencer son apostolat à l'adresse de la jeunesse. Il veut se consacrer à la jeunesse ouvrière, mais pas dans le sens où notre prêtre de l'époque, l'abbé Julien, le faisait. Ce prêtre, comme après beaucoup d'autres, veulent se consacrer à la jeunesse ouvrière dans un but de promotion sociale. Ce n'est pas le cas de Timon David, qui veut s'intéresser seulement à la promotion spirituelle, tout en restant dans leur niveau, dans leur milieu. Timon David, avec l'aide de Massenon et en s'inspirant de Monsieur Allemand, crée une œuvre de jeunesse où on s'amuse et on prie. Très vite imité, n'est-ce pas ? Il crée la congrégation des pères de Timon David pour continuer son œuvre, pour plus de persévérance. Il crée un scolastica à la viste pour former des futurs pères de jeunesse. Et son œuvre réussit très bien. Il va mourir en 1888. Il a exercé une influence profonde sur la jeunesse en diffusant une culture religieuse très vive, très pieuse, mais en même temps une culture contre-révolutionnaire. Timon David est un royaliste affirmé et convaincu. Sa méthode de direction, qui est toujours appliquée aujourd'hui, est inspirée des exercices de Saint Ignace. À la même époque, se reconstituent les confréries de pénitents. Nous n'en avons plus tellement aujourd'hui. Il y en a beaucoup en Corse, par exemple, mais en Provence, il n'y en a plus tellement. Mais la rupture a été trop forte et le port de la coule, du sac de pénitents, est mal accepté, ils ne retrouvent pas leurs vieux locaux et pratiquement seuls les pénitents blancs du Saint-Esprit sont actifs, leur action se limite aux enterrements des miséreux, les autres obsèques étant régies par le service des inhumations des pompes funèbres de la ville. Le recrutement des pénitents, d'ailleurs, se tarit. Ils ne sont plus très nombreux. Il y a 3 confréries qui ont encore des effectifs un peu étoffés. Les pénitents de la Trinité, 312. Les blancs du Saint-Esprit, 260. Et les pénitents noirs, 238. Les bourras, qui sont des pénitents réformés, qui existent à Marseille, mais qui existent aussi à Aix, sont peu nombreux, mais ils s'occupent spécialement des condamnés à mort. Sous l'Ancien Régime, et enfin à la Restauration et sous l'Empire, les condamnations à mort sont nombreuses, hein, beaucoup plus que dans l'époque contemporaine. Et je voudrais terminer sur un aspect plus personnel de la vie religieuse. J'ai trouvé un document dans les papiers de la bibliothèque de la paroisse du Bon Pasteur, dont je suis issu, et que j'ai exploité dans le numéro 159 de la revue Marseille, de mai 1991, intitulé « Les Marseillaises », sous le titre « Forme de la piété marseillaise sous la Restauration ». C'est un texte établi probablement par un prêtre du Bon Pasteur pour une de ses dirigées, femme de notable. Il s'agit d'un véritable règlement de vie. Prière dès le lever, prière à plusieurs moments de la journée, forme de charité, entretien de la vie religieuse des domestiques. C'est une femme de notable, n'est-ce pas, hein? Alors, est-ce que ce texte, donc, que vous trouvez dans la revue dans le numéro 159 de la revue Marseille de mai 91, sera-t-il appliqué et applicable encore au milieu du siècle ou à la fin? C'est une interrogation à laquelle je ne peux pas répondre. Mais, peut-être, car la piété et la pratique demeurent très vives chez les femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie. 19e siècle, femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie ont une pratique religieuse fréquente et assidue. En revanche, chez les hommes, dans les classes supérieures et dans le monde ouvrier, où le noyau provençal est submergé par les immigrés nombreux, n'est-ce pas, la pratique religieuse diminue. On peut considérer qu'elle est tombée à 25% et au-dessous dans les quartiers populaires. Le baptême qui était donné dans la semaine, le lendemain souvent de la naissance, n'est-ce pas, le baptême est retardé à 8 jours, puis à 1 mois. Apparition après 1871 des enterrements civils. Et aux autres enterrements, souvent, les ormes restent à la porte de l'église. La chrétienté provençale a perdu de sa vitalité en quantité et en qualité. Le siècle se termine sur un drame que je vous rappelle, l'assassinat en 1884 de Marie de Lhuille Martini, qui appartient à une très bonne famille de la ville, qui était la supérieure, fondatrice, de la Société des Filles du Cœur de Jésus, au monastère de la Serviane. Elle est assassinée par un ouvrier anarchiste, Louis Chave, qui avait été renvoyé du monastère où il travaillait pour son inconduite. Conclusion, n'est-ce pas? Première remarque, la religion fait partie de la vie publique et officielle, n'est-ce pas? La religion n'est pas comme aujourd'hui un fait privé. Alors, depuis 1801, le Concordat, et les accords qui ont suivi avec les réformés et les juifs, les trois cultes publics reconnus pratiquent officiellement. En revanche, les déviations, hein, par exemple l'évêque signale que tel prêtre prêche des erreurs graves, etc., l'évêque le signale au préfet et le prêtre est déplacé, voire poursuivi. Les cultes non autorisés sont poursuivis par la police. Donc, première remarque, culte public soutenu par les pouvoirs publics. Deuxième remarque, le catholicisme est massivement majoritaire. Au XIXe siècle, les deux autres cultes reconnus n'ont pas beaucoup de fidèles. Entre 2000 et 3000 pour les réformés. Je ne sais pas si le pasteur a des chiffres plus importants dans la discussion, on en parlerons. Mais ils font peu parler d'eux. Néanmoins, Kléber, qui avait été assassiné au Caire en 1800, son corps est rapatrié, déposé au château d'If, et ensuite il a des obsèques solennelles en 1818. Les Juifs ont acquis la citoyenneté sous la Constituante. Sous l'Ancien Régime, ils n'étaient pas citoyens. On n'en compte pas beaucoup, 200 sous l'Ancien Régime à Marseille, n'est-ce pas ? 460 en 1808, puisqu'il y a eu un recensement, donc on sait, n'est-ce pas, la religion est marquée dans le recensement. Plus d'un millier sous la monarchie de Juillet, plus de 2000 sous le Second Empire. Négociants, armateurs, ils assurent le commerce avec le Maroc et l'Algérie, dont le plus brillant est un bordelais d'origine, c'est Jules Mirès, qui fait fortune, mais dont la carrière s'achève par une déconfiture. Et il y a des écrivains comme Léon Gosselin, il y a une rue Léon Gosselin à Marseille, qui est un ami de Balzac. En 1864, la grande synagogue de la rue Grignan, existe maintenant, est inaugurée. À ce moment-là, la communauté juive a 2500 fidèles et la Légion d'honneur est remise au grand rabbin Michel David Cohen. Troisième remarque, les caractères contradictoires de ce catholicisme. À la fois un aspect festif du catholicisme populaire, n'est-ce pas ? Amour des processions, dans le peuple des artisans, pêcheurs, portefeuilles. Ça persiste, hein. Regardez aujourd'hui les processions qu'organise le père Otonello au panier, n'est-ce pas? C'est dans le droit fil de ce qui se faisait au XIXe siècle. Donc, festif d'un côté, mais rigoureux en même temps, voir le rôle des pénitents, qui se donnent la discipline, qui s'occupe d'œuvres de miséricorde, on peut souligner, déceler et souligner l'influence du courant janséniste au XIXe siècle, ses vérités dans la pratique et les mœurs au XIXe siècle. Le père Timon David signale que son oncle, qui était très pieux, préparait sa confession de Pâques plusieurs semaines à l'avance en s'observant, en notant, n'est-ce pas, de façon à n'oublier aucune de ses fautes. L'éducation donnée est stricte et la conduite contrôlée. Dans le règlement de vie d'une dame dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, le contrôle de la vie morale est extrêmement précis et strict. Quatrième et dernière remarque, c'est un catholicisme conservateur. Les mauvaises langues diront que ça change guère, n'est-ce pas? Mais il est conservateur et monarchiste. Attaché au roi jusqu'au milieu du XIXe siècle et au-delà, le père Timon David en est un bon exemple, n'est-ce pas? Et les catholiques sont hostiles au bonapartisme. C'est très curieux parce que les catholiques marseillais ont été hostiles au bonapartisme et ils seront de même hostiles au gaullisme. Jamais le gaullisme n'aura une majorité à Marseille. Qu'est-ce que nous a légué ce catholicisme marseillais du XIXe siècle? Entre autres choses, le culte de la Vierge de la Garde. Puissant facteur d'intégration. Et la bonne mère continue à intégrer les Marseillaises, autant et plus encore que le passé, puisque les joueurs de l'OAM, toutes religions confondues, vont solliciter sa protection à la veille d'un grand match. Je vous remercie.